Le boucher de Meudon, deuxième partie, les amours du grand Loriot. De père en fils, les Loriot étaient bouchers. Venus d'un petit village du Morvan, les Quatre Chemins, Jacques Loriot et sa mère étaient établis à Meudon depuis une quinzaine d'années seulement. Pour comprendre le caractère de la mère Loriot, les mobiles qui la faisaient agir, pour bien démêler les causes des passions ardentes qui vont s'agiter dans la suite de ce récit, il est nécessaire de raconter brièvement les dramatiques circonstances qui avaient amené la famille Loriot à quitter les Quatre Chemins. Il est nécessaire de retracer également l'histoire tantôt douce comme un rayon de soleil de mai, tantôt sombre et lugubre comme un mauvais rêve, les relations du boucher Loriot avec Charlotte Gélibert. Auparavant, il nous paraît utile de dire ici que ce drame auquel assistent nos lecteurs n'est pas imaginaire. Nous avons changé les noms, les localités pour ne pas renouveler une douleur cuisante chez ceux qui ont été mêlés à cette histoire, de près comme de loin, mais nous n'avons rien retranché au caractère des personnages. Beaucoup les reconnaîtront sans doute. Denise, Loriot, Charlotte et la vieille paysanne se détachaient en relief avec une lumière intense dans le procès émouvant de dates récentes dont nous ne sommes ici que le narrateur fidèle. Il y a des choses de la vie réelle que ne trouveront jamais les imaginations, même les plus fécondes. Le livre des passions humaines est éternellement nouveau. Ces pages sont écrites en flamboyantes lettres où se découlent des infamies et des atrocités impunies, des vertus et des dévouements sublimes inconnus. Les Quatre Chemins sont un petit village de 800 ou 900 habitants, perdu au milieu d'un bois dans l'arrondissement de Château-Chinon. La boucherie Loriot n'alimentait pas seulement le village où elle se trouvait, mais rayonnait aux environs et fournissait la viande à 7 ou 8 villages ou hameaux d'alentour. Toutes les semaines, les mercredis et le samedi, le père Loriot partait les Quatre Chemins avec une petite voiture attelée d'un âne et sous la vache grise de laquelle se trouvaient les paniers d'osier, garnis de linge blanc à l'intérieur et renfermant les morceaux de viande pour les clients ordinaires. Car la clientèle était très limitée. Le père Loriot la connaissait sur le bout du doigt, savait quels étaient ses caprices et était toujours prêt à les satisfaire. À ce métier, Loriot, le père, avait amassé quelques économies. Aussi la boucherie des Quatre Chemins était-elle bien tenue. C'était une jolie petite maisonnette aux volets rouges, avec une vigne grimpante qui cachait sous ses pampres verts le plâtras de la muraille et recouverte en chaume. Justine Loriot, que nous voyons aujourd'hui amaigrie, sèche et ridée, était alors une coquette paysanne à l'allure vive, aux traits réguliers, aux yeux noirs étincelants. Quand Loriot, très fin sous son épaisse bonhomie, avait épousé Justine, des garçons des Quatre Chemins, furieux de voir leur échapper une proie qu'ils convoitaient, lui avaient dit en plaisantant « Eh Loriot, c'est trop bien pour toi ce morceau-là » Loriot avait pris la chose du bon côté. Il avait répondu « C'est beau, oh, ce sera jamais trop belle pour faire marcher notre boutique. Vaut mieux une femme à corde qu'une laide. » Et il avait raison, tout de suite, la boutique marcha. Jacques naquit seulement quelques années après le mariage. C'était un gros bébé blond, aux membres potelés forts et qui rapidement se développa. Quand Justine le déshabillait, le père, des fois, le prenait tout nu dans ses bras et en le faisant sauter au plafond, disait « Ah, ça fera tout de même un rude boucher !» Comme il s'absentait souvent, la plupart du temps, Justine restait seule dans la boutique. Rarement elle accompagnait son mari dans ses tournées, soit lorsqu'il allait vendre de la viande, soit lorsqu'il allait acheter des animaux de boucherie. Après la naissance de Jacques, elle ne quitta plus la maison. Le bien-être, qui, avec les années, était entré dans le ménage, apportait une nonchalance dans sa vie. Et puis, un attrait mystérieux la retenait maintenant assise pendant des heures entières auprès de la fenêtre, le rideau de mousseline soulevé par un pot de réséda pour mieux voir ce qui se passait, ce qui allait et venait. Tour à tour, une émotion violente pâlissait ou rougissait son visage, animant l'éclat de ses yeux. C'était lorsque le fermier Gélibert, un des plus riches paysans des quatre chemins, dont la ferme était en face de la boucherie, arrivait au coin de la rue pour lui crier bonjour avec un gros rire, ou seulement pour lui envoyer à la dérobée un signe d'amitié. Quand, sous un prétexte quelconque, il pouvait entrer un moment auprès d'elle, en l'absence de Loriot, c'était des causeries sans fin, avec des rires qui cachaient mieux les ardeurs d'une passion qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, ou avec des mots vifs à double entente qui faisaient frissonner la jolie paysanne et voilaient ses yeux. Il y avait des mois que Gélibert lui faisait la cour. Il y avait des mois qu'elle l'aimait avec emportement. Pourtant, elle n'était pas sa maîtresse. Gélibert, avec ses brutalités de parole, était timide. De son côté, une crainte retenait Justine. Si elle cédait à Gélibert, et sa prudence de femme l'avertissait du danger qu'elle courait, si elle cédait, qu'allait-il advenir ? Elle sentait dans son âme comme une fureur de passion qui troublerait sa vie profondément dès qu'elle serait au fermier. La pensée de son mari ne l'arrêtait pas. Le père Loriol avait la philosophie des paysans boutiquiers dont le petit commerce et les besoins de chaque jour sans cesse renaissants absorbent toutes les préoccupations. Oh, il était à 100 lieues d'être jaloux. Se fût-il douté du reste des intentions du fermier, qui n'en aurait pas pris d'inquiétude. Il avait confiance en sa femme et la croyait toute au petit Jacques. En outre, en supposant que Justine fût devenue la maîtresse de Gélibert, il n'était pas homme à faire esclandre pour venger son infortune conjugale. Justine, de beaucoup supérieure à son mari par l'intelligence, savait à quoi s'en tenir là-dessus. Elle ne le craignait pas, nous le répétons. Justine n'avait pas même le bénéfice de la résistance molle qu'elle apportait au désir de Gélibert, pas plus que le fermier n'avait le bénéfice de sa timidité. Depuis longtemps, aux quatre chemins, leur relation était connue. Depuis longtemps, ils passaient pour être amants. Quelques allusions méchantes les avaient éclairées sur ce que l'on disait, mais la crainte des cancans ne fit que se resserrer encore les liens étroits qui déjà les unissaient. Et ce qui n'était alors qu'un cancan devint bientôt une réalité. Leurs relations coupables durèrent 6 mois, puis Gélibert, fatigué par cet amour violent qu'il ne comprenait pas, ne revint plus et évita toutes les explications qu'elle cherchait. Elle resta longtemps sans croire à son abandon, refusant de se rendre à l'évidence. 2 fois, elle alla trouver Gélibert à la ferme. Ne l'y rencontrant point, elle l'attendit devant la boucherie, guettant le moment où le fermier, le matin, partait pour les champs. Mais il la fuyait. Ce drame amusait le village, amusait Gélibert lui-même, dont les tentatives de Justine flattaient la vanité. Pourtant, cela finit par le lasser en l'inquiétant. Là où il se rendait, il était sûr de rencontrer Justine, sombre, désolée, des reproches et des amertumes aux lèvres. Aux champs, à la ferme, dans les rues des quatre chemins, sur le seuil de la boucherie, partout, semblait se multiplier la jeune femme. Un jour, il lui envoya le garde champêtre avec la menace du commissaire de police cantonal et des gendarmes si elle ne restait tranquille. Dès lors, elle se le tint pour dit. Mais brusquement, une effroyable haine remplaça l'amour que Gélibert lui avait inspiré. Elle n'eut pas le temps de la satisfaire. Voici pourquoi. La ferme de Gélibert n'appartenait pas à celui-ci en entier. Il l'avait achetée quelques années auparavant et n'en avait payé que la moitié. Depuis, les années avaient été désastreuses. En outre, Gélibert perdit sa femme, économe et soyeuse, qui aurait pu, si elle avait vécu, sauver la maison d'un désastre. Ce désastre, ce fut l'impossibilité de payer ce qu'il redevait sur l'achat de la ferme. Ce fut un procès long et coûteux avec le propriétaire. Ce fut la perte de ce procès en première instance, en appel et en cassation, ce qui entraîna des frais énormes. Ce fut la ruine complète du fermier. Gélibert, dénué de ressources, quitta le pays et passa en Amérique. On apprit 2 ou 3 mois après qu'il était mort de la fièvre jaune à Rio de Janeiro. De son mariage lui était née une fille. Il l'avait envoyée, avant de quitter la France, à Paris, chez sa sœur qui tenait dans la rue Montmartre une petite boutique de mercerie. « Je reviendrai peut-être, écrivait-il. Peut-être ne reviendrai-je pas. Alors, ma fille deviendra la tienne. » Et cet enfant abandonné n'était autre que Charlotte. La haine de Justine était d'autant plus profonde, ses regrets d'autant plus cruels, qu'elle était enceinte de nouveau et que cette fois, l'enfant qu'elle portait avait pour père le fermier infidèle. Ce fut Denise qui vint au monde. La pauvre petite se ressentit des colères et des angoisses de la jeune femme pendant la gestation. Elle formait un étrange et douloureux contraste avec son frère qui grandissait robuste, exubérant de santé. Elle avait le teint jaune, plombé, terreux. Son cou saillait ça en avant et la tête était appuyée en arrière sur les épaules pour rendre moins difficile la respiration, qu'elle avait courte mais accélérée. Souvent, cette gêne de la respiration était si grande que le visage prenait une douleur bleu foncé, comme si l'asphyxie eût commencé. L'enfant était tout difforme. Les épaules étaient hautes et pointues, les genoux se rejoignaient pendant que les talons s'écartaient en se relevant. Les articulations étaient volumineuses, mais solides. Seuls, ainsi que l'avons dit, les bras étaient admirables. Le caprice de la nature avait pourtant donné à la petite fille les yeux noirs et ardents de la mère, tempérés par une grande douceur, par les rayonnements d'une infinie bonté. En se développant, sa difformité s'accentuait. Souvent, le boucher Loriot la regardait avec colère et murmurait entre ses dents. « Oh, c'est pas Dieu possible! Cet avorton-là n'est pas de moi !» Justine n'avait pas voulu la nourrir. Elle l'avait élevée au biberon. Sa haine pour la pauvrette égalait la répugnance de son mari. Naboth grandit, silencieuse et triste. Entre ses inimitiés, Jacques était le seul qui lui témoigna de l'affection. Comme il avait 7 ou 8 ans de plus qu'elle, comme il était vigoureux, il la portait les journées entières dans ses bras, avec une fierté de petit homme, flânant le long des chemins, quand il n'allait pas à l'école. Gâté follement par le père et par la mère, il reportait sur Naboth une partie des caresses qu'il recevait, poussé en cela par cet instinct de justice inné chez les enfants. Naboth avait 3 ans et Jacques en avait 10, Lorsque le boucher Loriot mourut subitement, dans des souffrances atroces, des suites d'une piqûre de mouche charbonneuse. La veuve vendit le fonds de boucherie, réalisa les économies du ménage et quitta les quatre chemins. Trop de souvenirs cruels se rattachaient au village pour qu'elle y demeurât plus longtemps. Et ce fut à Meudon que le hasard la poussa. Tout d'abord, elle avait songé à Paris, mais après quelques jours, la grande ville l'effraya. Elle se sentait perdue dans ce tourbillon. Et puis, ses économies étaient insuffisantes. Loriot mort, il fallait le remplacer par des garçons bouchers, jusqu'à ce que Jacques connût le métier et fût assez fort pour travailler lui-même. À Meudon, comme aux quatre chemins, 15 ans auparavant, elle eut bientôt une bonne et nombreuse clientèle, et la boucherie fut prospère. L'affection de Jacques pour sa sœur était devenue une sorte d'idolâtrie. Le temps qu'il aurait pu passer à courir contre les champs, à vagabonder avec les enfants de son âge, il le consacrait à la petite, restant auprès de son lit à lui sourire et à babiller. Bien que, déjà, sa robuste nature le portât aux travaux d'homme, il s'amusait, quand il était à côté d'elle, à des jeux de fillettes. Il lui tenait sa poupée, une poupée qu'il lui avait achetée lui-même de ses petites économies réalisées sou à sou. Et quand la petite s'amusait à coudre ensemble, sous prétexte de confectionner une robe, des morceaux d'étoffe, c'étaient les grosses mains rouges de Jacques qui enfilaient l'aiguille en s'y reprenant à 10 fois. Et alors la pauvrette riait d'un rire argentin devant l'inhabileté de son frère. Et ce rire était la seule gaieté qui rompait la monotonie de la boucherie. Jacques aidait aussi sa mère les matins à habiller Niabotte. Il apportait ses vêtements, les tenait près sur une chaise et les tendait à Justine. En hiver, il avait des soins maternels. Il faisait chauffer auprès du poêle de l'arrière-boutique la chemise de l'enfant pour qu'elle ne ressentît pas trop la sensation de froid du linge qui fait frissonner son corps délicat. En été, c'était des oiseaux qu'il lui apportait et qu'il se procurait dans les bois au mépris de tous les règlements. En toute saison, c'était des friandises nouvelles, ou bien qu'il achetait, ou bien qu'on lui donnait, et qu'il fourrait dans sa poche, les destinant à la délaisser. Nabote, réchauffé par cette affection, ne s'apercevait pas de l'indifférence de sa mère. Pourtant, la jalousie emportée de celle-ci devait bientôt jeter le trouble dans l'affection des deux enfants. La difformité de Denise, la faute dont sa naissance perpétuait le souvenir, l'expression de reproche qu'on lisait souvent dans les grands yeux noirs de la petite, tout concourait à éloigner la mère de la fille. Dans les premiers temps, elle laissa Jacques à sa sœur, sans chercher à intervenir dans leur jeu, dans leur distraction. Mais, comme elle avait un excessif besoin d'aimer, elle reporta bientôt sur Jacques toute la tendresse qu'elle avait dans le cœur, oubliant même l'existence de Nabote pour ne s'occuper que de son fils et concentrer sur lui son amour maternel. Dans les premiers temps, la vie des enfants n'en fut point changée. Quelque chose comme de la peur ou de la honte la retenait. Ses journées se passaient maintenant à espionner les petits, à guetter les moindres manifestations de leur tendresse, comme si cet amour profond de frère et de sœur eût été criminel. On lui dit encore que Nabote, en gardant pour elle une part du cœur de Jacques, volait d'autant sa mère et que sa difformité la condamnait à l'isolement toute sa vie. Et la première fois que cette jalousie se manifesta, c'était un dimanche, après les vêpres. Jacques, assis au pied de Denise, aidait celle-ci à faire un immense collier de papier dentelé, destiné, dans l'esprit des enfants, à orner le cou d'un bouledogue, lequel les regardait gravement en remuant la queue, devinant sans doute que cet ornement lui était réservé. La mère s'approcha. « Jacques, » dit-elle en leur faisant un signe, le front plissé d'une ride, « Jacques, viens près de moi. » « Attends, est-ce que tu ne devrais pas être honteux de t'abuser à tes bêtises-là ?» Elle lui prit la main et l'emmena. Et, comprenant peut-être, Naboth les regarda s'éloigner avec ses grands yeux noirs pleins de larmes. Ce dimanche-là, le collier ne fut pas fait, et Naboth passa doucement sa main de reine sur la grosse tête de Tom le bulldog, en murmurant, comme s'il pouvait comprendre. « Ne te fâche pas, Tom, ce sera pour demain. » Et dès lors, ces scènes se renouvelèrent tous les jours. Quand Jacques prenait la petite dans ses bras, Justine intervenait brusquement, enlevait Denise et la reportait soit dans son fauteuil, soit dans son lit. « Mais je t'ai déjà défendu de porter la sœur, » disait-elle. Et Jacques restait triste toute la journée. Souvent, Naboth s'emparait des jouets de son frère, de ses fusils, de ses pistolets, et s'amusait. Jacques lui apprenait comment on armait les chiens et comment on faisait partir les capsules ou les amorces. Et quand elle tirait sur lui, en visant, la crosse du fusil enchâssée dans le creux de sa pauvre épaule déformée, et qu'elle lâchait la détente, Jacques, tout à coup, tombait par terre et restait immobile, faisant celui qui est tué. Retenu à la boutique par des clients, quelquefois la mère les oubliait, mais aussitôt libre, elle accourait, arrachait les jouets des mains de Naboth et les tendait à Jacques, disant « Mais ta sœur a sa poupée, toi garde tes jouets !» Elle était envieuse des moindres regards et des moindres caresses de l'enfant. C'était une jalousie maladive, sans cesse grandissante, de tous les jours et de tous les instants. Il y avait une chose seulement qu'elle permettait à Jacques, c'était les soins qu'il avait l'habitude de donner à sa sœur et que réclamaient la délicatesse et la santé chancelante de la petite. Si Jacques n'avait pas été là, l'aversion de la mère pour Naboth ne l'eût pas empêché de lui rendre les soins nécessaires, mais elle se trouvait heureuse et comme soulagée d'en être débarrassée. Sa jalousie se taisait, et Jacques, quelques minutes, était libre. Quand Denise avait la fièvre et que des sueurs abondantes la prenaient, il veillait auprès d'elle, ne la quittant pas de son regard d'enfant, attentif et bon. Il lui essuyait le front avec un mouchoir et l'embrassait doucement en avançant ses grosses lèvres avec prudence, comme s'il avait peur de la blesser. Si des douleurs vives et lancinantes passaient tout à coup dans les membres de la petite et si elle criait, il disait tout bas « Ce n'est rien, ne pleure pas, tiens, « Regarde-moi !» Et il se pinçait les bras jusqu'au sang. Alors, très étonné, la petite ne criait plus. Tout jeune, il apprit à la soigner, et il avait, chose bizarre, une intelligence précoce de sœur de charité. Dans les premières années, les médecins, après avoir vu Naboth, avaient ordonné de la nourrir avec du lait. Elle devait prendre aussi de l'huile de foie de morue. Ce ne fut que plus tard qu'on lui permit de la viande, quelques potages gras, des bœufs, des légumes. En même temps, on augmentait la dose d'huile et on obligeait Naboth à prendre du quinquina et de la gentiane parce qu'elle était très faible. Et Jacques veillait à toutes ces choses. Naboth restait couché le plus longtemps possible. Elle avait des lassitudes extrêmes. Quand on la levait, sa démarche était lente et peureuse, avec une crainte de tomber à chaque pas. Comme tous les rachitiques, elle avait de l'aversion pour les moindres exercices. Ce fut Jacques qui, peu à peu, l'habitua à des fatigues graduelles et très modérées, en prenant des précautions infinies, de manière que le poids du corps n'occasionna aucune fracture, aucune nouvelle courbure, et pour permettre aux anciennes lésions de disparaître. Et quand elle eut dépassé 5 ans, on lui donna une alimentation substantielle en ayant soin d'éviter toute nourriture indigeste. De cet âge jusqu'à 10 ans, elle grandit un peu, mais elle s'arrêta tout à coup dans sa croissance et resta nouée. De 10 ans jusqu'à 18 ans, elle passa les 3/4 de sa vie dans son lit ou dans son fauteuil, entourée de coussins de toutes dimensions. À mesure que lui-même grandissait, qu'il devenait fort, qu'il s'occupait des travaux de la boucherie, Jacques, devant la faiblesse de Nabote, sentait augmenter son affection. Lorsqu'il prit la direction de leurs petites affaires, ses soins nouveaux ne le détachèrent pas de Nabote. Il comprenait depuis longtemps l'aversion de la mère, mais ne se rendait pas compte des motifs secrets qui le lui inspiraient. Il comprenait aussi l'affection jalouse dont Justine l'entourait. Il en souffrait pour Denise, et souvent, après des scènes de jalousie qui avaient l'infirme pour cause, quelques paroles sèches de Loriot jetaient Justine éplorée et furieuse dans un coin. Alors, ce n'était plus depuis longtemps la vive et jolie bouchère du village des 4 chemins. Les 10 dernières années l'avaient singulièrement vieillie. Elle restait droite comme un frêne, mais elle avait maigri. Des milliers de petites rides sillonnaient son visage. Seuls les yeux rayonnaient d'une intensité de vie extraordinaire. 1 an et demi environ avant l'époque où commence notre récit, une vieille dame de 55 à 60 ans environ était entrée à la boucherie et avait demandé Madame Loriot. Celle-ci était absente pour le moment. Jacques seul se trouvait là avec Nabote. « C'est à ma mère en particulier que vous voulez parler ?» demanda le grand Loriot, qui les bras nus, le tablier blanc sur les jambes, était en train de dépecer sur l'étal un quartier de moutons. « Oui, dit l'étrangère, je suis une payse, mais j'ai quitté les 4 chemins depuis longtemps. On m'a peut-être oublié. Oh, sauf votre respect, si vous voulez me dire votre nom. Je suis Madame Gélibert, mercière à Paris. Oh, la sœur du fermier des 4 chemins, qui est mort en Amérique. Oui, justement. Eh bien, asseyez-vous, Madame Gélibert. Vous êtes la bienvenue. Ma mère sera enchantée de vous voir. On a sûrement occasion de rencontrer les gens du Morvan par ici. Elle ne tardera certainement pas à rentrer. Elle est à faire des courses au Bas-Meudon. » Et le grand Loriot continua de couper sa viande. 1/4 d'heure après, la mère rentrait. Madame Gélibert se leva et s'avança la main tendue. « Oh, je ne vous aurais pas reconnue, Justine, dit-elle. Vous êtes bien changée. » La mère murmura. « Ah oui, c'est vous. Hein? Oui, j'ai vieilli, n'est-ce pas? Oh, j'ai eu tant de chagrin. Mais malgré les années, en vous apercevant, je me suis dit, « Ça peut être que la sœur du fermier Gélibert, pour lui ressembler comme ça. » Elle se tut, puis, « Et qu'est-ce qui me procure votre visite ?» Loriot avait quitté la boutique en la saluant. Nabote, dans son fauteuil devant la porte, s'était endormi au soleil. « Je vais vous raconter ça, » dit la mercière. Et elle dit qu'après la mort de son frère, après son départ plutôt, Elle s'était chargée de la petite Charlotte, sa fille, qui se trouvait sans autre parent qu'elle. On ne pouvait pas la laisser seule, n'est-il pas vrai? Donc, Charlotte était venue, toute petite, elle l'avait élevée, et Dieu sait comme elle était délicate, tous les jours malade et tous les jours des médicaments. Les bénéfices de la mercerie fondaient et passaient chez les pharmaciens. Mais ces choses-là, c'est des détails. Ça ne peut pas intéresser Madame Loriot. Pourtant, ça se rapporte à ce qu'elle vient lui demander. Oh, ce n'est pas impossible. Ça rendra plutôt service à la boucherie. Voilà ce que c'est. Les médecins consultés ont déclaré que Charlotte ne vivrait pas si on ne la voyait point passer 2 ou 3 ans dans une boucherie à la campagne. Pour respirer l'odeur de la viande, pour boire du sang même. Il paraît que c'est très bon à la poitrine, le sang. Il a fallu se mettre en quête d'une boucherie aux environs de Paris. Mais c'était pas chose facile. Elle ne voulait pas confier Charlotte à des gens qui peut-être la traiteraient mal. Elle ne voulait pas non plus l'exposer à tous les dangers qui attendent les jeunes filles, jolies, qui sont abandonnées à leur propre force. Et justement, Charlotte est très jolie. Malgré son honnêteté, il faut qu'elle soit surveillée. Les jeunes gens s'attaquent plutôt aux filles avenantes qu'aux laideaux, et bien sûr, Madame Loriot le sait autant qu'elle. Une imprudence est vite commise, et ça ne se répare pas. Madame Gélibert s'arrêta, se moucha, puis reprit, pendant que Justine l'écoutait, les paupières demi-closes, en détournant la tête, une rougeur fugitive sur le front. Alors j'ai pensé à vous. Je me suis souvenu que vous aviez une boucherie aux 4 chemins. J'y suis allé, mais là on m'a appris que depuis très longtemps vous aviez quitté le village, et votre successeur me dit que vous étiez installé à Meudon. C'est à 2 pas de Paris, ça ne pouvait pas être plus commode. Je viens donc vous proposer de prendre Charlotte chez vous. Elle vous rendra des services, elle est intelligente et instruite. Elle tiendra vos comptes. Au besoin, je paierai même sa nourriture s'il le faut, pour vous décider. Oh, si vous la connaissiez, vous n'hésiteriez pas à accepter. Elle est si gentille et si douce, et complaisante avec cela, et affectueuse et bonne. Tout le portrait, le vrai portrait de son frère, quoi. Le vrai portrait de son frère. Cette phrase fit bouillonner tous les souvenirs cruels qui sommeillaient dans le cœur de Justine. « Je veux bien, dit-elle, j'accepte. » Une vague idée de vengeance la poussait. Charlotte était la fille de celui qui l'avait séduite et lâchement quittée. Elle était la fille de Gélibert. Elle paierait pour lui. Au comment, elle ne le savait pas. Elle n'avait pas le temps de réfléchir maintenant. Plus tard, elle verrait. Ce qu'il lui fallait, tout d'abord, c'était avoir Charlotte sous la main. Oh, elle est ingénieuse. La haine lui donnerait pour sûr de l'imagination, et elle trouverait vite le moyen de la faire souffrir. Est-ce qu'elle pouvait négliger un hasard pareil? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de miraculeux dans ce hasard qui amenait chez elle la fille de Gélibert, de l'homme pour lequel elle avait éprouvé un amour immense, bientôt suivi d'une haine mortelle? Pour la paysanne, superstitieuse comme elle était, la providence se trouvait là-dedans. Ce qui arrivait là était justice. Eh bien, justice serait faite. Elle rendrait la vie dure à Charlotte. Il fallait une occasion, elle l'attendrait. Mais oui, reprit-elle, vous pouvez l'amener, votre petite. Elle ne sera pas une charge, au contraire. Elle se rendra utile, elle remplacera Denise qui tient les comptes. Voilà qui est convenu. Oh, je vous remercie, dit Madame Gélibert. Oh, c'est un fier service que vous rendez à Charlotte. Vous êtes une bonne femme. Vous lui sauvez peut-être la vie à cette pauvre enfant. La vieille ne répondit pas et baissa la tête pour cacher sans doute l'éclair qui jaillissait de ses yeux. « Faites qu'elle soit ici demain, » dit-elle. « Denise la mettra au courant. »« Merci encore une fois. Charlotte installée chez vous, ce sera si commode pour elle et pour moi. » Elle reviendra tous les soirs à Paris, coucher rue Montmartre, excepté en hiver s'il fait trop froid ou lorsque vous la retiendrez pour mettre vos livres à jour. Et moi, de mon côté, je serai tranquille en sachant qu'elle est auprès de vous et que vous en aurez soin. Ah, vraiment, je ne désirais rien de plus. » Madame Gélibert partit. Quand elle passa devant Denise, qui, réveillée du seuil de la porte, avait tout entendu, elle lui dit en souriant, « Demain, vous aurez une sœur de votre âge qui vous tiendra compagnie, mon enfant. Est-ce que cela vous fait plaisir ?»« Elle sera la bienvenue, » dit Nabot de sa douce voix. Charlotte arriva le lendemain. C'était une grande et jolie fille de 18 à 20 ans, au visage doux, très pâle, aux yeux bleus, très clairs. Elle était délicate, en effet, comme l'avait dit Madame Gélibert. Mince et souple, elle avait les épaules un peu trop maigres. Puis, le tour des yeux était cerclé de bleu et le nez, très blanc, aminci, avait des narines d'une mobilité extrême. On devinait une gêne de la respiration. Les lèvres étaient rouges, mais lorsqu'elle s'entr'ouvrait pour parler ou pour sourire, laissait apercevoir des gencives blanchâtres. Les dents étaient jolies, petites et bien rangées. On sait qu'elle était blonde, avec des cheveux abondants. Ce fut le matin, vers 10 heures, qu'elle fit son apparition dans la boucherie. Nabot n'était pas encore levé. Loriot se trouvait seul à la boutique, en train de modifier l'étalage, quand elle entra. En la voyant, Loriot vint vers elle. « Je parie que vous êtes mademoiselle Charlotte, » dit-il en souriant. « À quoi voyez-vous ça ?»« À rien, je l'ai deviné comme ça en vous apercevant. Et puis, il faut vous dire, je l'ai prévenu de votre arrivée. »« Madame Loriot est absente ?»« Oui, mais je peux vous mettre au courant sans plus tarder. » Du reste, ma sœur travaillera avec vous aujourd'hui et les premiers jours. Et où est-elle, votre sœur ? Oh, elle est encore couchée, mais elle ne dort pas. Vous savez, elle est infirme, alors on la dorlote comme une enfant gâtée. Venez, je vais vous faire connaissance avec elle. Ils entrèrent dans le cabinet de Nabot. Celle-ci se souleva en les voyant, et ses regards se portèrent vers la jeune fille. Jacques lui dit que c'était Charlotte. Elles se tendirent la main spontanément. « Je vais me lever, » dit Denise, « et je vous installerai. Je vous montrerai les livres de compte et je vous apprendrai les prix des morceaux de viande. Pour que vous ne soyez pas trop gênés dans les premiers temps, je resterai auprès de vous. »« Je vous remercie, » fit Charlotte. « Ça rendra ma tâche plus facile. » « Et pour moi, ce sera un plaisir, mademoiselle Charlotte. » Alors, doucement et péniblement, Denise se leva et s'habilla avec l'aide de son frère qu'elle réclama pour aller plus vite. Quand elle eut fini, elle alla chercher les livres de comptes. Puis les deux jeunes filles s'installèrent à une table au fond de la boutique et se mirent à travailler pendant que Loriot continuait de découper ses morceaux de viande et achevait l'étalage. À chaque moment, des gens entraient qui demandaient des gigots ou une épaule de mouton ou du bœuf. Les plus aisés cherchaient surtout les entrecôtes, le filet, la loyau. Les moins riches prenaient davantage le collier, les plats de joue, les gîtes et la surlonge. Mais ce qui se débitait le plus facilement, c'était le flanchet, la semelle, l'étrange grâce pour le pot-au-feu, la bavette d'aloyau et les côtes. Les rognons se découpaient en minces parties que Loriot réservait et distribuait à la clientèle privilégiée avec les os à moelle. À tous les clients qui entraient et qui servaient le boucher, Charlotte tournait la tête, voyait comment s'y prenait Loriot, écoutait les observations des ménagères qui se plaignaient d'un os trop lourd et d'un morceau trop gras, et les réponses toujours gaies du jeune homme qui cherchait à contenter tout le monde. Charlotte suivait Loriot d'un air curieux, et il y avait un peu d'étonnement. À un certain moment, elle dit à Nabote : « Comme il a l'air gentil, votre frère. Il est très doux, n'est-ce pas ?»« Oh !» fit l'infirme, avec un long regard où la tendresse profonde qu'elle avait pour Jacques était une lueur humide. Elle se pencha au-dessus de la table pour rapprocher sa tête de Charlotte afin de ne pas être entendue, et alors, très bas, agissant comme si elle connaissait la jeune fille depuis si longtemps, de longues années, elle lui raconta les bontés de son frère, ses soins, son affection sans cesse, aux aguets de ce qui pouvait lui plaire et lui procurer un moment de bien-être et de plaisir. Elle ne tarissait pas. Elle se sentait attirée par une irrésistible sympathie vers cet inconnu qu'elle ne connaissait pas une demi-heure auparavant. Et la pauvre petite parlait avec une éloquence chaude et entraînante, et à deux ou trois reprises, Loriot s'aperçut que les regards curieux, étonnés de Charlotte, se portaient sur lui. Et il se détournait, sans savoir pourquoi, un peu gêné. Quand Justine arriva, Denise avait confié à sa nouvelle amie tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle n'avait plus rien à cacher. La vieille reçut Charlotte avec une indifférence parfaitement jouée. Après lui avoir recommandé de ne pas trop se fatiguer dans les premiers jours à mettre les livres au courant, elle ajouta d'un ton singulier : C'est drôle que vous ressemblez à votre père, ma petite, quoique vous soyez frêle et mignonne comme tout. Et après un silence, avec une hésitation dans la voix, « Mais tant mieux, il me semblera que je n'ai pas quitté les quatre chemins. » Telle fut l'installation de Charlotte. Les premiers temps, il y eut un peu d'embarras dans la vie ordinaire de la boucherie. C'était une figure nouvelle, il fallait s'y habituer. Mais cela ne dura pas longtemps. Charlotte, Loriot et Denise furent bientôt sur le pied d'une intimité fraternelle. La jeune fille, du reste, cherchait à se rendre nécessaire. C'est ainsi que, dès son entrée, elle suppléa Loriot, qui avait pleine confiance en elle, en son habileté et en sa douceur, dans les soins quotidiens que réclamait l'infirmité de Nabote. Celle-ci marchait avec un appareil auquel il fallait veiller, et Charlotte avait tenu à s'en rendre compte tout de suite. C'était un appareil provisoire destiné à redresser les jambes de la petite rachitique. Chacune des jambes avait été d'abord garnie de ouates et enveloppée dans un bandage dextriné tout à fait semblable à celui qu'on emploie dans les fractures. Ensuite, on avait placé deux longues attelles au côté extrême des membres. Ces attelles étaient fixées par des lacs d'autant plus serrés qu'on approchait du genou. Le but qu'on se proposait était de mettre les membres dans les conditions de récapitule les plus favorables pour que ces conditions leur fussent conservées après la dessiccation de l'appareil. Alors on enlevait les attelles et Nabote marchait avec des béquilles. Les choses restaient ainsi pendant plusieurs jours, au bout desquels la médecin de Meudon venait renouveler le bandage en redressant un peu les membres incurvés. Et lorsqu'on serait parvenu, par une série plus ou moins longue d'opérations semblables, à obtenir une rectitude satisfaisante, on appliquerait un appareil permanent. Si l'appareil se dérangeait, on n'allait pas pour cela chercher le médecin. C'était Loriot qui le remettait en place, mais dès que Charlotte fut installée dans la maison, l'amitié très vive et compatissante qu'elle montra pour Denise permit au boucher de lui confier sa sœur et de se reposer sur elle des soins à lui donner. C'était un bizarre contraste que celui du grand Loriot, rouge et solide, exubérant de santé, fort comme un des bœufs qu'il traînait par la corde à son abattoir, à côté de la petite infirme, sa sœur, et de Charlotte, pâle et délicate. Quelquefois, quand elles étaient là, toutes les deux, l'une auprès de l'autre, pendant qu'il découpait dans la boutique, il se surprenait lui-même à y penser. Alors il jetait comme un coup d'œil étonné sur ses larges épaules, sur ses bras énormes dont la chemise très blanche était toujours repliée au-dessus du coude, et contemplait ensuite ses deux enfants mignonnes et faibles. Par une loi naturelle, sa force se sentait attirée vers cette faiblesse. C'est pour cela qu'il aimait tant sa chair chétive. Est-ce qu'il allait aimer aussi Charlotte ? Il arrivait souvent qu'il interrompait sa besogne pour admirer la jeune fille, sa démarche silencieuse et glissante de l'une à l'autre pièce, son sourire doux, un peu mélancolique, ses moindres mouvements gracieux qui lui rappelaient les jolies gazelles qu'il avait vues au jardin des plantes. Mais ce qu'il admirait surtout, c'était cette taille frêle et mince, se balançant comme un roseau et qu'il eût prise dans ses 10 doigts, volontiers, pour voir s'il n'avait craint, en serrant un peu, de l'étouffer. Un jour, il avait dit « Ça doit vous empêcher de respirer, votre corset, mademoiselle Charlotte. » Elle avait paru surprise, puis elle s'était mise à rire. « Mais je n'ai pas de corset, monsieur Loriot. Le médecin me l'a bien défendu. Tenez, mettez votre main là, vous verrez. » Elle lui prit la main qu'elle appuya sur sa taille, naïvement. « Ah oui, en effet, » dit Loriot en balbutiant, « on sent pas les baleines. » Il était devenu très rouge, et il retira sa main qui brûlait. Elle l'appelait toujours monsieur Loriot, et lui mademoiselle Charlotte. Mais bientôt, d'un commun accord, ils retranchèrent le mot « monsieur » et le mot « mademoiselle ». Il n'y eut plus que Charlotte et Jacques. Dès lors, l'intimité fut complète, et ce fut une vie pleine d'un grand calme et d'un bonheur discret, qui n'osait s'avouer lui-même. Comme elle avait une intelligence très vive, il ne fallut pas à Charlotte plus de 4 ou 5 jours pour être au courant des petits détails de la boucherie, des livres, de la clientèle et de la vente. La vente, ce fut Loriot qui la lui apprit avec le nom des morceaux de viande. Il lui montra aussi quels étaient les morceaux de première, de seconde, de troisième ou même de quatrième qualité. « C'est nécessaire, disait-il. Il faut que vous sachiez ces choses-là. » Alors, au fur et à mesure qu'il lui désignait les différents quartiers de viande, soit de mouton, soit de bœuf, soit de veau, il lui apprenait que pour le mouton, le gigot et le carré sont des viandes de première qualité, l'épaule de deuxième, la poitrine et le collet de troisième. Ah, pour le bœuf, c'était plus compliqué, à cause de la diversité des morceaux. Mais Charlotte, heureusement, avait une excellente mémoire. Tout de suite, elle sut que la première qualité comprenait le filet, la loyau, la semelle, l'entrecôte et la culotte. La deuxième qualité, les côtes, le paleron, la bavette d'un loyau et le collier. La troisième, le flanchet. la poitrine, le gîte. La quatrième, la surlonge, la queue et les plats de joues. Également, pour le veau et le porc, Loriot lui a pris la vente et le détail, ne négligeant rien. Il faisait toucher les morceaux de viande encore saignants, qu'il maniait, lui, d'un air d'indifférence, détaché, en les jetant sur le marbre blanc de l'étal. Elle, en 5 minutes, eut les mains toutes rouges de sang. Elle riait, respirait avidement l'odeur fraîche de toutes ces viandes. « Ça sent bon, on dirait que ça me fait du bien. »« Oui, la viande, voyez-vous, il n'y a que ça de bon, » répondait le boucher. Déjà, elle se portait mieux à vivre là. Elle était plus rose, respirait plus facilement, avait plus d'appétit. Loriot s'en apercevait, et il en ressentait comme une joie fière. On lui dit que c'était lui qui guérissait. Du reste, elle se plaisait là, comme si elle fût née. Dans la propreté brillante de la boutique, elle apportait sa coquetterie de jeune fille élevée à Paris. Maintenant, et depuis son arrivée, la boucherie était pleine de fleurs. On était au printemps. Elle mettait au jardin au pillage, ou bien elle courait dans le champ l'oiseau ou les coteaux boisés, faire des bottes de feuilles et de fleurs sauvages dont elle emplissait l'étal et dont elle ornait les quartiers de bœuf. « Jamais ça n'a été aussi bien rangé !» disait Loriot. Par exemple, Nabot s'était réservé les découpures des papiers qui devaient couvrir le manche des gigots et les dentelles et les festons qui enveloppent le dos rose et blanc des moutons guillotinés pendus à l'étal, symétriquement. Comme elle n'avait plus rien à faire, puisque Charlotte tenait les comptes, l'infirme s'était prise tout à coup d'une affection très grande pour l'enfant d'une pauvre femme qui habitait un taudis voisin de la boucherie et que Loriot employait souvent à des courses dans Meudon. C'était un gamin d'une dizaine d'années qu'on appelait le Petit Pierre et auquel Nabot, dans la douce charité de son âme, rendait le service que jadis son frère Jacques lui avait rendu à elle-même. Elle lui apprenait à lire, à écrire et à compter, quand, pour gagner quelques sous, l'enfant n'était pas obligé de s'absenter dans le village. Telle fut la vie calme de la boucherie pendant les premiers mois qui suivirent l'arrivée de la caissière.